Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Bertie Bourdon, Mélanie Chalandon, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Nora Litoussi. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Anthony Thomasson. De l'espionnage aux attaques cyber, des agents doubles aux opérations de déstabilisation, les services secrets sont dotés de moyens nouveaux, dirigés vers des missions nouvelles. Nous avons parlé hier de la Chine, ses réseaux tentaculaires de l'espionnage, demain du Mossad en Israël, main dans la main avec les entreprises de la tech. Aujourd'hui, CIA et FBI au cœur du jeu politique américain. Michael Hayden, ancien patron de la CIA, n'est pas le seul à se mêler de la campagne.
Je crois que Trump ne devrait pas faire de second mandat. Ce serait une très mauvaise chose pour l'Amérique. Pour nous, dans les services de renseignement, les choses sont difficiles. Et parfois, nous avons raison et parfois, nous avons tort. Et l'on essaie de faire au mieux. Mais Trump ne le fait pas. Il parle aux Russes. Il ne fait pas ce qu'un président devrait faire.
En regardant ces photos de documents classifiés exposés dans la maison de Donald Trump et en lisant les chefs d'accusation de cette affaire, j'ai hurlé, notamment quand j'ai vu le référencement de ces nombreux documents classifiés qui étaient entreposés là-bas, sans aucun soin, sans aucune sécurité, pendant si longtemps. Ils contiennent les informations les plus sensibles récoltées par les services de renseignement.
Ça ressemble à de banals cartons de feuilles d'imprimante empilés les uns sur les autres. Ce sont en fait des documents top secrets que Donald Trump était censé remettre aux archives nationales à la fin de son mandat. Les programmes nucléaires des États-Unis dans une salle de bain entre la cuvette des toilettes et la baignoire. Les options de représailles en réponse à une attaque étrangère éparpillées sur une moquette à très grosses fleurs dans ce qui semble être une chambre. Des documents sur les capacités militaires de pays étrangers dans un bureau, une salle de bal et jusque dans la douche de Donald Trump. Quand le FBI a perquisitionné la maison de Mar-a-Lago en Floride en août 2022, il n'en est pas revenu. L'ancien président s'est défendu en parlant d'inadvertance, en rappelant que Joe Biden aussi entrepose quelques documents classifiés dans sa maison du Delaware, y compris dans son garage. Toujours est-il que cette désinvolture le poursuit aujourd'hui encore. Plusieurs anciens responsables du renseignement prennent la parole dans le débat public pour dire à quel point serait dangereux, selon eux, un deuxième mandat de Donald Trump. Que ce soit dans la campagne électorale ou dans le choix qu'elles font de déclassifier certaines informations, notamment sur la guerre en Ukraine, les agences de renseignement américaines se mêlent donc de politique. Pourquoi cette démonstration de transparence de la part de services qui ont toujours travaillé dans le secret? La CIA en particulier est-elle crédible quand elle dit agir en gardienne de la démocratie? Ces agences d'ailleurs sont-elles censées être des contre-pouvoirs? Toutes ces questions, nous les abordons ce matin avec nos deux invités. Bonjour Damien Van Puyvelde.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence et directeur de recherche à l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Vous avez écrit « Cybersecurity, Politics, Governance and Conflict in Cyberspace » aux éditions Polity en 2019. J'aurais pu dire le titre en anglais, en français on mettra de toute façon les références sur notre site. Nous sommes également avec Gilda Levauguer. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous, professeur à l'université Rennes 2, auteur du renseignement américain entre secret et transparence 1947-2013. C'est le livre que vous avez fait paraître aux presses universitaires de Rennes. Vous êtes en duplex depuis France Bleu Armorique et je vous en remercie. Alors à tous les deux, Damien Van Puyvelde, Gilda Levauguer, on a entendu Michael Hayden au début de cette émission, l'ancien directeur de la CIA, prendre une position politique avant une élection. Est-ce que ça avait déjà été le cas? Alors en 2016, oui, mais avant cela encore, est-ce que c'était jamais arrivé au XXe siècle, depuis la création du FBI en 1908 ou de la CIA en 1947, que d'anciens responsables des services de renseignement prennent position contre un candidat, en l'occurrence Damien Van Puyvelde?
Alors à ma connaissance, c'est quelque chose d'assez rare d'avoir comme ça un ancien directeur, même plusieurs anciens directeurs, prendre une position aussi forte que ça contre un candidat. Ça ne veut pas dire évidemment que le renseignement n'a jamais fait partie d'une campagne présidentielle. De manière indirecte, historiquement, le président Kennedy, par exemple, a utilisé une controverse d'analyse de renseignement vraiment sur la course aux armements avec l'Union soviétique dans sa campagne présidentielle des années 60. L'ancien directeur de la CIA, George Tenet, a été utilisé indirectement, au minimum, de par sa présence pour justifier des prises de position de l'administration Bush en 2002-2003. Et on pourrait interpréter que c'est une utilisation aussi qui a pu soutenir la campagne du président Bush pour qu'il soit réélu en 2004-2005. Mais des prises de position d'anciens directeurs d'agences comme ça qui sont aussi fortes sur l'espace public, c'est assez inhabituel.
Alors il y a Michael Hayden, mais aussi Sue Gordon, qui est l'ancienne directrice adjointe du renseignement national sous sa mandature. Elle avait démissionné en 2019. John Brennan, qui a dirigé la CIA jusqu'à l'investiture de Donald Trump en 2017 et qui ne cesse de le critiquer depuis, qui a notamment déclaré encore très récemment qu'une réélection de Joe Biden était impérative pour ne pas déstabiliser davantage l'ordre mondial. Ce sont ces mots. Alors tous plaident pour qu'il n'ait pas droit, Donald Trump, au brief traditionnel, le brief auxquels sont soumis ou sont autorisés plutôt les candidats à la présidentielle. Est-ce qu'il pourrait, Gilda Lovoguer, est-ce qu'il pourrait obtenir une exception pour Donald Trump? Est-ce que ça s'est déjà vu?
Concernant le brief, à ma connaissance, au moment de la campagne électorale de 2016, je crois que lui-même s'en était dispensé. De son propre chef, il me semble.
Il avait eu un brief, mais en janvier 2017, je crois, donc avant sa... Il avait été élu et c'était avant sa prise de fonction.
Oui, mais généralement, le candidat reçoit quelques éléments d'information avant et je crois qu'il avait dit, je n'en ai pas besoin. La position de Trump vis-à-vis du renseignement, c'est toujours un peu la même, c'est-à-dire que je suis plus intelligent que ces gars-là, donc j'ai pas besoin d'informations supplémentaires de leur part.
Mais en tant qu'ancien président, est-ce qu'il n'était pas censé être devenu un sage, donc susceptible d'avoir à conseiller ses successeurs comme ça se fait dans la tradition américaine? Est-ce qu'il a eu accès à des informations classées secret défense depuis la fin de son mandat? Est-ce qu'il a été mis dans la confidence de certains dossiers en cours au nom du fait qu'il a été président des États-Unis? Parce qu'il me semble que c'est la tradition.
Écoutez, là, je ne sais pas s'il a reçu des informations récemment de la part des services. Une chose est sûre, en tout cas, c'est que la tension est telle entre lui et les services de renseignement que j'imagine mal. Vous avez rappelé tout à l'heure dans votre introduction la question des documents qui ont été trouvés chez lui dans sa villa à Mar-a-Lago. C'est toujours évidemment un objet de tension très très fort entre lui et les services. Et d'ailleurs, depuis janvier au moins, enfin on commence à en parler un petit peu dans la presse américaine depuis janvier-février, il a décidé de conduire une contre-attaque au motif, bien entendu, que la communauté du renseignement américaine est partiale et évidemment, à son habitude, la qualifie bien sûr de deep state, d'état profond. Et donc, pour toutes ces raisons, je vois mal comment il pourrait engager, comment le dialogue pourrait être engagé avec les services de renseignement. J'ai l'impression, le sentiment qu'il est plutôt dans la vengeance. On sait que il travaille beaucoup, enfin disons, il y a un think tank, un réservoir d'idées de la Fondation Héritage qui a préparé un très volumineux dossier de 900 pages à peu près pour les différents aspects à mener, réformes à mener. Et parmi ces éléments, il y en a un essentiel qui est la conduite d'une purge administrative. Donc si, une fois élu, s'il est élu, purge administrative, ça voudra évidemment inclure, ou ça viendra évidemment inclure, les services de renseignement. Donc je doute que la relation est évoluée de manière positive récemment.
Alors, c'est vrai qu'en prenant la parole pendant la campagne, en disant qu'il ne faut surtout pas réélire Donald Trump, les anciens responsables des services de renseignement donnent du grain à moudre, donnent des arguments à Donald Trump et à ses avocats qui préparent la défense de l'ancien président pour son futur procès le 20 mai prochain pour avoir divulgué des informations sensibles. Ils peuvent dire, vous voyez bien que les agences de renseignement sont politisées, qu'elles sont à la manœuvre pour défendre le deep state, me semble-t-il, Damien Van Puyvelde. Est-ce que aujourd'hui, dans le camp républicain, ce discours-là est encore une fois fort des arguments que leur donnent sur un plateau ces anciens responsables des agences de renseignement, émerge là à quelques mois de l'élection?
On peut un peu distinguer au sein du camp républicain, disons que c'est une grande famille avec différents personnages qui ne sont pas toujours d'accord les uns avec les autres. Donc, vous avez mentionné, on a parlé en début d'émission de Michael Hayden, l'ancien directeur de la NSA et de la CIA, qui a servi sous George W. Bush. Donc, il est plutôt affilié aux Républicains.
2005-2006.
Voilà, il est plutôt affilié aux Républicains et dont, peut-être dans la branche, disons, John McCain, historiquement, des Républicains, donc des Républicains, des vrais Républicains, mais qui sont devenus, disons, des Républicains centristes. Et puis, on a des Républicains trumpistes qui sont beaucoup plus dans cette relation problématique, disons, aux faits, et aussi cette relation problématique donc avec la communauté du renseignement, et qui vont vraiment prendre offense du Deep State et utiliser, comme vous le disiez, ces réactions des anciens dirigeants républicains et démocrates des agences de renseignement sur la place publique en disant voilà, c'est vraiment une politisation, une utilisation partisane du renseignement. Il faut bien distinguer évidemment aussi le fait que ce sont tous des anciens directeurs et directrices et pas des directeurs et directrices qui sont en train de servir en poste. Donc ils ont un peu plus de prise de parole, certainement au niveau politique, on ne peut pas tout à fait limiter leur prise de parole tant qu'ils ne parlent pas d'affaires sensibles et de projets ou de dossiers qui sont encore sous le seuil du secret, sous le sceau du secret, pardon, ils ont un droit de prise de parole publique.
C'était déjà en tant qu'ancien directeur de la CIA que Michael Hayden avait, en 2016, alerté sur une présidence Trump dans deux lettres successives disant de Donald Trump qu'il était l'idiot utile de Vladimir Poutine. Polesny Doulak, c'est le terme en russe. Ces soupçons d'ingérence de la Russie dans la campagne de Donald Trump en 2016 feront l'objet ensuite de 2 ans d'enquête, 500 auditions de témoins, des perquisitions, 2800 documents réquisitionnés, une équipe de 19 procureurs et 40 enquêteurs menés par un procureur spécial, Robert Mueller, et qui concluront par « no collusion », pas de collusion.
Ils passent une bonne journée, moi aussi je passe une très bonne journée. Ils l'ont dit, pas de collusion, pas d'obstruction. Il n'y en a jamais eu, et il n'y en aura jamais, nous devons tirer toute cette affaire au clair. Mais surtout, cela ne devrait jamais arriver. Je le dis en face de mes amis, cela ne devrait pas se reproduire pour un autre président. Ces fausses informations, ça ne devrait pas se reproduire.
Donald Trump, juste après que le verdict du Russiagate ait été annoncé, quand on parle de politisation des agences de renseignement américaines, pour les spécialistes comme vous, il s'agit des biais politiques inhérents à leur fonctionnement. Pour nous, béotiens, il s'agit plutôt de l'utilisation politique qui est faite du travail de ces agences. En l'occurrence, Gilda Le Voguer, est-ce qu'on peut dire que le Parti démocrate, l'équipe de Joe Biden, a essayé de politiser les renseignements en espérant obtenir d'eux des informations sur un lien entre Donald Trump et la Russie?
Il me semble que ce serait peut-être aller un petit peu loin.
Vite en besogne.
Oui, un petit peu vite en besogne. J'ai pas ce sentiment. J'ai pas le sentiment que le Parti démocrate ait essayé d'utiliser. Alors. C'est évidemment compliqué parce que les républicains vont dire bien sûr qu'il y a eu cet effort effectué, en particulier moins si vous voulez du côté si on prend la campagne électorale de 2016 et ensuite donc le début du mandat, on a en particulier accusé l'un des responsables de la commission, de l'une des deux commissions chargées du contrôle des activités de renseignement, donc l'une des commissions du Congrès. On a en particulier accusé Adam Schiff, qui a orchestré, si vous voulez. Parallèlement, il y avait l'enquête menée par Robert Mueller, ancien directeur du FBI, et de l'autre côté, vous aviez cette enquête qui était menée au Congrès. Et évidemment, on a accusé Adam Schiff, qui est démocrate, d'avoir voulu orchestrer une bataille évidemment partiale vis-à-vis de Donald Trump, mais je ne crois pas que l'équipe de Biden ait essayé d'utiliser cette affaire. De toute évidence, Donald Trump de toute façon lui-même, alors comme vous l'avez rappelé, la commission Mueller a bien démontré qu'il n'y avait pas eu de collusion. il n'empêche...
Il y a plein de nuances dans le rapport, oui.
Voilà, et il n'empêche les efforts de désinformation opérés par les Russes, les services russes pendant la campagne électorale. Ça, ça a été amplement démontré, aussi bien par l'enquête du Congrès que par l'enquête de Mueller. Par ailleurs, lui-même, Trump, a fait la démonstration, en particulier en 2018, lorsqu'il y a cette rencontre entre lui et Vladimir Poutine, le 14 juillet 2018, à Helsinki, il désavoue publiquement ses agences à propos de l'ingérence russe, et donc il dit « j'ai autant de raisons de croire Vladimir Poutine que mes agences de renseignement ». Et ça, ça lui vaudra évidemment une réaction très très forte, en particulier de John Brennan, ancien directeur de la CIA, qui lui-même tweetera immédiatement une déclaration, la déclaration suivante « les déclarations de Trump relèvent de la trahison, ni plus ni moins ».
Alors, parce qu'au-delà au-delà de la question de savoir si Donald Trump a été accusé par les... Enfin, si en tout cas il était question de faire tomber Donald Trump par ses enquêtes et par ses déclarations. En revanche, l'obsession de la CIA envers la Russie, est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose que ce Russiagate révèle aussi, une obsession américaine de la CIA, ou alors l'Ukraine est une obsession américaine?
On pourrait dire que c'est une obsession, mais on pourrait dire également l'inverse, c'est-à-dire que dans les années qui ont précédé justement cette campagne électorale de 2016, on peut peut-être aussi avoir une analyse différente et constater que les services de renseignement américains étaient probablement focalisés sur autre chose et n'ont pas vu venir cette campagne de désinformation, donc l'obsession russe. Je n'en suis pas convaincu. J'ai l'impression que sur le radar des services de renseignement, dans les années qui ont précédé la campagne électorale de 2016, la Russie n'était pas le point, je veux dire, le point le plus critique de leurs analyses. C'était évidemment sous le radar, mais c'était peut-être pas ce qui prévalait à ce moment-là.
On sait en revanche que la CIA était présente en Ukraine dans les années 2010. Il s'agit pas du tout d'accréditer la thèse selon laquelle Maïdan, le mouvement Euromaïdan a été créé par la CIA, mais en tout cas la présence américaine est indéniable, et le New York Times notamment a publié plusieurs enquêtes à ce sujet. Alors que défendent Damien Van Puvelde, que défendent les agents de la CIA quand ils prennent la parole publiquement? Ou alors, que pensent-ils défendre? Parce qu'on les entend s'ériger en gardien de la démocratie d'une certaine façon. Est-ce que c'est leur rôle aux agences de renseignement américains d'être gardien de la démocratie?
Une fois de plus, il faut souligner que cette prise de parole publique, c'est par des anciens directeurs des services ou des anciens, disons, cadres des services. Je pense qu'ils défendent une certaine idée de la démocratie. De plusieurs manières. Tout d'abord, un attachement aux valeurs fondamentales des démocraties libérales. Trump est quand même interprété par beaucoup de personnes comme étant un démagogue dont les pratiques et le rapport à la vérité est très problématique et corrosif pour la démocratie. Donc je pense qu'il y a ce rapport à la vérité qui est problématique de leur point de vue. Ensuite, un autre aspect important de la démocratie quand on parle de renseignement, c'est cette distance complexe et ces limites complexes entre le monde du renseignement et le monde politique. Vous en parliez un peu tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte de ligne rouge, une frontière assez stricte entre ces deux mondes, avec des analyses qui viennent des services de renseignement qui sont là pour servir le politique, pour servir la prise de décision politique. Mais pour autant, les analyses du renseignement ne devraient pas être politisées, ne devraient pas servir directement ou identifier trop directement des options politiques, ou identifier trop directement ou recommander des politiques au président. Donc il y a des lignes à ne pas franchir, et de l'autre côté aussi, au niveau de la manière dont les politiques utilisent le renseignement, on peut imaginer qu'il y a aussi des lignes où un président ne devrait pas forcer les services à changer ses rapports ou à biaiser ses rapports afin de bien s'aligner avec la vision du monde du président, que ce soit le président Trump, Biden ou d'autres présidents. Et il y a donc un rapport d'utilisation du renseignement ici avec une intégrité qui doit être gardée par les deux mondes, qui a été en partie bafouée, ou en tout cas c'est perçu comme tel, qui a été en partie bafouée par l'administration Trump. Ça l'a été aussi par d'autres administrations auparavant, mais sans doute moins publiquement. Et donc ça crée une sorte de préoccupation pour les anciens des services autour de cette bonne distance entre le monde du renseignement et le monde politique.
Les services qui reprochent entre autres à Donald Trump d'avoir en 2017 révélé des informations sur l'État islamique en Syrie aux Russes ou d'avoir publié sur Twitter la photo satellite classifiée qui était censée le dédouaner de l'explosion d'une fusée en Iran en 2019. Quand un président a été démocratiquement élu, Gilles Dalot-Voguer, est-ce qu'il peut choisir de rendre public, donc de déclassifier des informations de ses services de renseignement sans avoir l'aval de ses services, c'est-à-dire comment ça se passe? Parce que c'est possible depuis quelques années. Dans quel cadre?
Je voudrais juste abonder sur ce que disait mon collègue au sujet de la politisation. En fait, elle peut effectivement être double, c'est-à-dire qu'il peut y avoir instrumentalisation du renseignement pour servir le pouvoir politique. C'est ce qu'on avait vu au moment de l'affaire des soi-disant armes de destruction
massive
où là,
en Irak.
Voilà, en Irak, où là le pouvoir politique réclamait des informations, des renseignements, et on a vu donc les agences de renseignement se plier à cette demande. Et l'autre aspect de la politisation, c'est peut-être effectivement comme aujourd'hui et en 2016, d'anciens responsables des services de renseignement qui viennent faire, si on veut, d'une certaine manière, pression sur un candidat et un éventuel futur président. Et donc là, on peut dire oui, et c'est ce que disent évidemment l'équipe et son équipe, Trump à lui lui-même et son équipe, à savoir qu'il y a instrumentalisation là de la part et politisation du renseignement.
Mais juste une question à ce sujet, oui. Gilles Dalot-Voguer, parce que les agences de renseignement ne sont pas constitutionnellement, me semble-t-il, des contre-pouvoirs. Donc quelle légitimité constitutionnelle est-ce qu'elles gardent si, alors qu'elles ont pour mission de rendre des comptes à un président qui a été élu, elles préfèrent s'opposer à lui, parce qu'elles se sont aussi opposées à Donald Trump quand il était en cours de mandat?
Oui, alors là, la réponse qui est faite, vous voyez par exemple par un ancien responsable également du renseignement, Mark Lowenthal, la réponse c'est d'abord la Constitution. Je suis, ou les agences de renseignement se sentent d'abord redevables, comptables vis-à-vis de la Constitution qu'il faut protéger. Et donc, lorsque il juge avec le président Donald Trump que cette constitution n'est pas respectée, eh bien, ils sont prêts, en tout cas, d'anciens responsables sont prêts éventuellement à franchir le pas et à dire non, là, il y a une limite qu'il ne faut pas, que vous ne pouvez pas franchir. Donc, alors que d'autres vont au contraire garder une réserve totale, disant non, le président en exercice peut effectivement faire ce qu'il veut. Et pour répondre à votre question au sujet des documents confidentiels, déclassifiés, à ma connaissance, on ne peut pas impunément révéler des documents. Il y avait eu cette petite affaire en 2017 qui avait un petit peu agité le paysage politique à Washington. En mai 2017, Donald Trump recevait à la Maison Blanche le ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov. Et à cette occasion, il lui avait d'une part indiqué qu'il venait, et il était tout content de le dire, il avait limogé donc James Comey, le directeur du FBI, et d'autre part, il avait montré des documents confidentiels à Lavrov. Et documents confidentiels, ça avait beaucoup hérité apparemment du côté des services de renseignement israéliens, parce que les documents portaient sur justement des affaires suivies par les services de renseignement israéliens. Donc très clairement, on ne peut pas utiliser comme ça des documents confidentiels. On a récemment un ancien directeur de la CIA, David Petraeus, qui lui-même a été condamné. Il a été condamné parce que il avait fourni des documents et des renseignements précis à sa future biographe. Il a eu une peine relativement légère par rapport à d'autres, mais néanmoins, il a eu une peine de, je crois, à peu près $100,000.
Donc, quand le gouvernement de Joe Biden, par exemple, choisit de rendre public l'alerte de la CIA en 2022 qui prévient de l'imminence d'une invasion russe de l'Ukraine, c'est non pas peut-être pas sur demande de la CIA, mais en tout cas, c'est en accord avec celle-ci. Quand, en revanche, Donald Trump, lui, choisit de limoger certains responsables des renseignements, de placer d'autres à la tête, notamment Damien Van Puyvelde, à la tête de la CIA avec Mike Pompeo, qui n'est pas du tout, qui n'a pas le profil classique du directeur de la CIA, puisqu'habituellement, ce sont des techniciens qui sont à ces postes. Est-ce que ça influence la façon de travailler des services ?
Ça influence forcément leur orientation générale. Je voudrais aussi revenir sur la discussion, sur le cours de la discussion un petit peu. Les services de renseignement se doivent d'être apolitiques, et pour eux, c'est leur principal atout. Donc, je pense que une grande majorité des professionnels du renseignement aux États-Unis et dans d'autres communautés de renseignement des pays occidentaux, disons, comprennent bien que leur principal atout, c'est d'avoir une réputation d'être apolitique. Et ça, c'est leur valeur ajoutée au niveau informationnel, ce qu'ils peuvent donner à voir au président, c'est des rapports qui sont des rapports solides, robustes. Et s'ils commencent à développer une réputation de politisation, c'est très problématique pour eux, puisqu'ils ne pourront plus parler la vérité au président. On dit en anglais « speaking truth to power ». Donc c'est très important pour eux. Et donc je pense qu'une grande majorité veut protéger ce côté apolitique. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait des individus qui fassent fuiter des informations à des fins politiques, qui aient parfois des lanceurs d'alerte aussi, et certes, comme on le voit, des anciens des services qui vont prendre des positions plus publiques. Alors, au niveau des nominations, alors là, pour moi, c'est peut-être un petit écart, justement, des anciens directeurs et directrices qui ont souligné ça dans la presse de manière très publique, dans des articles, dans des magazines américains, etc., pour dire que les nominations sous Trump étaient très problématiques, que c'était des individus qui manquaient d'expérience. Il appartient de toute façon au président, du fait de sa légitimité démocratique, de nominer dans le système américain tout un tas de hauts cadres des administrations, y compris les directeurs, sous-directeurs d'agences. Et donc, pour moi, il n'y a pas, ça ne devrait pas être un problème. Et évidemment, ces nominations sont là pour que un nouveau président puisse mettre en place son agenda politique, y compris à travers la nomination de directeurs, d'actrices qui ont plus ou moins d'expérience. On pourra, par exemple, se souvenir nomination d'autres figures plutôt politisées, comme l'ancien directeur de la CIA, George H.W. Bush, le père de George Bush, aussi président des États-Unis, 41e président des États-Unis, qui était ambassadeur en Chine avant, qui avait donc aussi un peu un profil politique quand il a été nominé directeur à la CIA. Bon, il avait certes beaucoup plus d'expérience que certains des directeurs et des directrices qui ont été nominés par l'administration Trump, et c'est plutôt ça le problème. Je pense le manque d'expérience qui est décrié plus que l'aspect politique.
Responsable qui, de toute façon, passe toujours une audition au Sénat. Généralement, il n'y a pas de blocage, il n'y en a pas eu pour Mike Pompeo. Alors, l'ancien directeur de la CIA regrette aujourd'hui que, pas lui, pas Mike Pompeo, mais un ancien directeur de la CIA regrette que tant d'Américains croient aujourd'hui en différentes théories du complot. Ce sont les mots qu'il emploie en oubliant que leur institution en a souvent ourdi certains complots. Ça dépend de la définition qu'on en fait, mais que ce soit en Amérique latine, au Timor oriental et en Irak, le mensonge des armes de destruction massive en Irak. Il se trouve qu'à l'époque, le patron de la CIA était derrière Colin Powell, secrétaire d'État de George W. Bush à l'époque, lorsqu'il a fait son discours à l'ONU le 5 février 2003 en brandissant une fiole d'anthrax.
Je ne peux pas vous révéler tout ce que nous savons, mais ce que je peux vous partager est confirmé par tout ce que nous avons appris ces dernières années, et tout cela est très troublant. Ce que vous allez voir est une accumulation de faits et des comportements troublants des Irakiens. Ces faits et le comportement des Irakiens montrent que Saddam Hussein et son régime n'ont fait aucun effort pour enclencher un désarmement, comme c'était demandé par la communauté internationale. En fait, les faits et le comportement des Irakiens montrent que Saddam Hussein et son régime produisent en secret encore plus d'armes de destruction massive.
Alors, vous nous avez dit tout à l'heure, Gilda Le Voguer, que les services à l'époque s'étaient pliés à une demande de l'administration, comme on dit, du gouvernement George W. Bush à l'époque. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que c'est Colin Powell qui a convaincu la CIA de ce que l'Irak possédait des armes de destruction massive, ou est-ce que c'est la CIA qui en a convaincu le vice-président de George W. Bush? Qui a quel rôle dans cette histoire?
Alors l'image, enfin là, nous n'avons évidemment que l'extrait sonore, mais l'image évidemment est fascinante. C'est-à-dire, on voit à l'ONU, et à ma connaissance, c'est la première fois que l'on voit cette image avec un ministre des Affaires étrangères en poste et derrière lui donc un directeur de la CIA qui vient appuyer ce que Colin Powell dit. Et cela traduit en fait un échange qu'il y avait eu, ou plusieurs même qu'il y avait eu entre les deux hommes. George Tenet, on le sait aujourd'hui parce qu'il a publié ses mémoires et d'autres mémoires ont été publiées également sur le sujet, il avait dit, utilisant une... Parce que Colin Powell avait des doutes en fait, et il avait dit au ministre des Affaires étrangères, à Colin Powell, non, mais ne crains rien, mes informations c'est du béton. Il avait utilisé une expression que l'on utilise dans le cadre des matchs de basket, l'expression étant « it's a slam dunk », voilà, donc que l'on peut traduire par « c'est du béton ». Mais malgré ça, Colin Powell avait certainement un doute, et donc il lui a dit « puisque c'est du béton, eh bien tu vas venir m'accompagner jusque l'ONU pour appuyer effectivement ma démonstration. » Mais Colin Powell l'a dit ensuite après et avant son décès que il avait fait une erreur ce jour-là et certainement voilà, il a eu ce doute, y compris certainement même lorsqu'il était à l'ONU. Donc dans le cas de figure, c'est assez complexe évidemment dans l'administration du président Bush, mais le président Bush avait un souhait effectivement qui était d'entrer en guerre contre l'Irak, mais à l'intérieur du cabinet du président Bush, il y avait différentes opinions et Colin Powell avait une opinion qui était plutôt modérée, réaliste, et il a, je dirais pas qu'il a fini par être convaincu, mais il a fini par être convaincu peut-être de la nécessité de porter ce dossier, même s'il en connaissait les faiblesses.
Donc il y avait des doutes au sein du gouvernement, aussi sans doute au sein de la CIA, puisqu'il y avait un message de la CIA envoyé une semaine avant l'intervention américaine de 2003 en Irak, qui a été déclassifiée il y a quelques années et qui avait fait dire à certains que l'agence n'avait jamais cru que Saddam Hussein était lié aux attentats du 11 septembre, notamment parce que des agents américains étaient allés vérifier à Prague la rumeur qu'avait fait circuler Dick Cheney, selon laquelle le chef du commando du 11 septembre avait rencontré un espion irakien à Prague quelques semaines avant les attentats. Eux, les agents de la CIA, n'avaient rien trouvé sur place qui confirme ces dires. Néanmoins, ça fait longtemps que la CIA, le FBI commettent des erreurs, aussi des crimes dans l'histoire. L'opération Chaos de 67 à 73 en ce qui concerne la CIA, ce vaste plan d'espionnage de militants activistes dont les activités sont légales au regard de la loi, mais que eux vont venir espionner, ils interceptent des télégrammes, ils ouvrent des courriers. Un contrôle parlementaire avait été mis en place, Damien Van Puyvelde, dans les années 70. Est-ce que le Congrès exerce aujourd'hui un contrôle judiciaire, une surveillance plus rigoureux qu'à l'époque, au fur et à mesure que se sont accumulées les bévues?
Voilà, oui, il y a eu une réforme vraiment au milieu des années 70, comme vous le dites, pour réagir un peu à tout ce qui a été perçu, tout ce qui était des abus de la CIA, du FBI, de la NSA, qui en gros ont entrepris tout un tas d'activités qui ont dépassé le cadre strict vraiment de leurs activités. Alors ça peut être interprété de manière diverse. Mais le fait est qu'il y a eu cette sorte de saison de réforme au milieu des années 70 avec l'établissement de l'équivalent de délégation parlementaire au renseignement, une au sein de la Chambre des représentants, l'autre au sein du Sénat, qui ont peu à peu affirmé leur rôle de contrôle démocratique du renseignement. Donc, vous l'aviez dit tout à l'heure, le comité du Sénat confirme les nominations des directeurs, directrices des services de renseignement. Ils ont un droit de regard et un contrôle sur le budget des services de renseignement, ce qui est toujours très important au niveau du contrôle parlementaire ou du contrôle démocratique. Ils autorisent dans les grandes lignes, disons, les activités de renseignement et ils ont une sorte de rôle de consultation même sur des opérations clandestines, ce qui est assez inhabituel au regard d'autres démocraties libérales comme la France ou le Royaume-Uni, où le contrôle parlementaire n'a pas vraiment de droit de regard sur les opérations d'enseignement. Donc on peut dire quand même qu'on a un contrôle parlementaire assez poussé aux États-Unis, qui place encore plus, disons, le renseignement dans l'espace public, et qui donc peut aussi, d'un point de vue peut-être plus négatif, c'est le revers de la médaille quand on a un contrôle parlementaire plus développé, ça peut aussi mener à des jeux de politisation ou de lutte partisane un peu plus importants, notamment dans le contexte actuel qui est fortement partisan aux États-Unis.
Après, peut-être sans surestimer le contrôle parlementaire en question, Damien Van Puvelde, par exemple, en 2014, cette commission sénatoriale du renseignement avait dit qu'elle s'était vue refuser l'accès à 9400 documents qu'elle souhaitait consulter pour un rapport. Le FBI, je crois, ou la CIA, je ne sais plus, lui avait fermé les portes de ces documents. Donc elle n'a pas toute la possibilité de se déployer et de demander ce qu'elle veut.
En théorie, elle devrait avoir cet accès, les textes le disent. Donc en pratique, souvent c'est plus compliqué. Un autre problème est aussi que les parlementaires qui font partie de ces commissions n'ont pas toujours une bonne idée de tout ce que font les services, et donc ils ne posent pas les bonnes questions. Donc si on ne sait pas qu'une opération existe, forcément on ne peut pas vraiment la contrôler. Donc ça, c'est un des problèmes. Plus ou moins la même année, quand même, on peut souligner que la commission parlementaire aux États-Unis a publié un rapport sur l'utilisation de la torture par la CIA, qui est un rapport dont le résumé fait près de 1000 pages et qui donne beaucoup d'informations justement sur ce programme. Donc voilà, c'est pas un système qui est parfait, vous avez raison, c'est important de le souligner, mais c'est un système qui est quand même, à mon sens, fortement développé aux États-Unis.
Gilda Le Voguer.
Juste rajouter quelque chose concernant le contrôle parlementaire des activités de renseignement. Un universitaire américain qui s'appelle Frank Smith fait une distinction entre, d'une part, le contrôle parlementaire institutionnel, c'est-à-dire le contrôle parlementaire qui vient accompagner au quotidien les activités des services de renseignement, et puis il distingue cela du contrôle parlementaire qu'il qualifie d'enquête, ou si vous voulez, qui peut parfois même être quasiment inquisitorial. Donc il peut y avoir deux attitudes, c'est-à-dire une attitude d'accompagnement, et puis lorsqu'il y a une affaire, là on enquête et on essaye. On a une attitude plus agressive vis-à-vis des agences de renseignement. Alors le contrôle parlementaire, mon collègue le disait, n'est pas parfait, tant s'en faut. Un bon exemple a été, je parlais tout à l'heure de Adam Schiff, cette commission parlementaire qui a donc enquêté sur l'affaire russe était particulièrement divisée, puisque le directeur, ou plutôt le président de cette commission d'enquête, c'était Devin Nunes, qui est toujours républicain, et en fait il a, pendant tout le début de l'enquête menée par Adam Schiff et les autres membres de la commission parlementaire, il a servi en gros de petit télégraphiste pour Donald Trump. Il donnait les informations au fur et à mesure de l'enquête à la Maison Blanche. Ça, on avait rarement vu quand même une dichotomie aussi grande, aussi forte à l'intérieur d'une commission parlementaire sur les activités de renseignement. Yo. Shout to everybody who's been on this trip with me. You don't have to agree, but if you feel like me, someone get this Aryan a sheet. Time to bury him, so tell him to prepare to get impeached. Everybody on your feet, this is where terrorism and heroism meet. Square off in the street, this chump barely even sleeps. All he does is watch Fox News like a parrot and repeats, while he looks like a canary with a beak. Why you think he banned transgenders from the military with a tweet? He's trying to divide us, this shit's like a cult, but like Johnny, he'll only unite us, cause nothing inside us drives us like this fight does. Similar to when two cars collide, cause our spirits crush, and this spot's a tight one. But here the jaws of life come, to pull us from the wreckage, that's what we get pride from. When we can't, from our stars and stripes, cause this type of pickle that we're in's hard to deal. But there's always tomorrow still, if we start from scratch, like a scab, get the scars to heal and band together for Charlottesville and for Heather. Fallen heroes, fill his wall with murals. Enough batter, get up, hit the damn resetter. Let's start from zero, this is our renewal. Spray tan, get rid of, get a brand new better America, and here's to where it all began. There's no place like
didn't want to piss your face off, did you? Can't denounce the clan because they play golf with you. You stay on
Twitter. Eminem et Alicia Keys et cette chanson qui date de 2017, Like Home. Il est temps de l'enterrer, alors dites-lui de se préparer à être destitué, dit-il. Eminem, cette chanson a fait réagir le secret de service américain chargé de la protection rapprochée du président. Le rappeur a été interrogé, lui a demandé s'il était lié à des terroristes. Eminem a répondu seulement quand il s'agit d'encre et de paroliers. Vous écoutez Culture Monde, le troisième épisode de notre série sur les maîtres du renseignement. Aujourd'hui, FBI, CIA, au cœur du jeu politique américain. Le FBI a, à ce sujet, un gros passif en la matière, héritage de son ancien chef, John Edgar Hoover.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Edgar, tu vas devenir l'homme le plus puissant de ce pays.
Vous vous souvenez ce dossier que nous avons ouvert sur sa femme ?
Madame Roosevelt.
Vous m'en faites une copie, je vous prie.
Est-ce légal ? Il faut parfois faire une petite entorse à la règle pour assurer la sécurité de son pays.
Laissez-moi les transcriptions, je vous prie.
N'hésitez pas à en faire part à votre frère, Monsieur Kennedy. Faites-lui savoir que j'ai une copie personnelle. Le président a peur.
La bande-annonce du film J. Edgar de Clint Eastwood, le portrait paru en 2011 de John Edgar Hoover, ancien président tout-puissant du FBI de 1924 à sa mort 48 ans plus tard, après avoir lancé la guerre au crime et à la mafia, il entreprend une croisade anti-bolchévique et le FBI devient le bras armé du macartisme. Alors si cette période de paranoïa doit son nom à un sénateur McCarthy, jusqu'où le FBI était-il soumis à des hommes politiques ? Bonjour Alexandre Rios Borde.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Cité. Vous avez écrit « Savoir de l'ombre, la surveillance militaire des populations aux États-Unis » paru aux éditions de l'EHESS et vous êtes le coordinateur d'un programme de recherche qui s'appelle « Ennemis, une socio-histoire du gouvernement de la menace ». Alors, avant d'être le directeur intransigeant, obsessionnel du communisme qui sera dans les années 50, Hoover, quand il prend la tête du FBI en 1924, est d'abord un bureaucrate. Comment son obsession gestionnaire va d'abord contribuer à la réforme de cette institution encore jeune, puisqu'elle a été créée en 1908.
Oui, c'est d'abord un homme qui est censé nettoyer le FBI après une série de scandales qui ont impliqué cette agence de police fédérale. Et donc c'est le bon bureaucrate qui va remettre de l'ordre dans cette agence et qui va la réorganiser et qui va notamment, puisque c'est la question qui vous intéresse en particulier, mettre fin aux opérations de police intérieure en fermant ce qu'on appelle à l'époque la division radicale qui s'appelle General Intelligence Division et qui est fermée officiellement par Hoover, même si en réalité le FBI va continuer discrètement pendant les années 20 et 30 à opérer une forme de surveillance politique. Mais c'est d'abord un bureaucrate, un ordonnateur, c'est l'image qui va se donner. En particulier dans les années 30, ça va être un brillant communicateur qui va monter la réputation de son agence et sa propre réputation sur sa capacité à organiser une force de police moderne, professionnelle, inspirée des méthodes scientifiques et notamment impliquée dans ce qu'on va appeler la guerre contre le crime et donc la lutte contre les grands criminels des années 30.
Avec cette grande campagne de communication pour promouvoir les nouveaux G-men pour government men qui passent d'agent de bureau à homme d'action. Et vous rappelez dans vos travaux que dans un pays où la méfiance à l'égard de l'État central est entretenue par le mythe de l'État révolutionnaire, l'idée que des agents de l'État puissent apparaître comme des défenseurs des citoyens, c'était loin d'aller de soi à l'époque. Dans quelle mesure, sous John Edgar Hoover, le FBI est-il inféodé au Congrès ?
Alors, il est, comme toutes les institutions américaines, on a souvent du mal à le voir, les institutions exécutives, on a souvent du mal à le comprendre depuis la France. Aux États-Unis, en particulier dans cette période où l'exécutif est encore n'a pas atteint l'ampleur qu'il a aujourd'hui, le Congrès est totalement indépendant et contrairement à ce qui se passe souvent en France, par exemple, les institutions sont totalement tenues par le Congrès en matière budgétaire. Donc ça veut dire qu'il faut collaborer avec le Congrès, répondre aux questions du Congrès, se plier à ses demandes pour obtenir ses demandes budgétaires chaque année. Et Hoover sera un bureaucrate particulièrement habile à partir des années 30. Pour entretenir ces liens avec les membres du Congrès, avec les membres des commissions dont relève le FBI et des commissions financières, des commissions budgétaires, il saura très bien collaborer, leur donner les informations qu'ils demandent, tout en les tenant à distance, leur rendre des services parfois, pour ensuite obtenir l'aide politique et l'aide budgétaire du Congrès. Congrès lorsque nécessaire pour son agence.
Donc s'il est très malin pour se lier avec certains hommes politiques, est-ce que c'est le cas avec McCarthy, le sénateur McCarthy? Est-ce qu'il y a des liens personnels entre eux? Quand Hoover et tout le FBI derrière lui se lancent dans sa croisade anti-bolchevique, est-ce que c'est un ordre du gouvernement américain et plus précisément de ce sénateur McCarthy?
Non, alors je dirais que c'est plutôt l'inverse en réalité. C'est-à-dire, alors il y a une relation qui s'établit entre McCarthy et Hoover. McCarthy, c'est un sénateur qui a été élu en 1947, qui est un sénateur plutôt discret, vous le savez, et qui va apparaître sur la scène médiatique américaine lorsqu'au printemps 1950, il commence à agiter une liste de supposés communistes qui auraient infiltré le gouvernement fédéral et en particulier le département d'État. Il y a une relation entre Hoover et McCarthy à partir de qui date d'avant cette période en réalité, qui se construit sur une forme de proximité idéologique, de convictions partagées sur la menace communiste et sur les relais internes de la menace, enfin de la menace soviétique et donc des relais internes et notamment communistes de cette menace soviétique. Il y a aussi un jeu que donc Hoover était habitué à entretenir, c'est-à-dire d'échanges de bons procédés, de collaboration. McCarthy, son comité, c'est un comité qui est, c'est un sous-comité d'une commission de la Chambre qui est la commission des opérations gouvernementales. Donc c'est celle qui est chargée de s'occuper du fonctionnement de l'État. Donc bien collaborer avec ce sénateur, quel que soit ses, avant même qu'il s'engage dans sa croisade anticommuniste, ça peut avoir une importance pour McCarthy. Et puis très vite, c'est plutôt Hoover qui va instrumentaliser McCarthy, le contraire en réalité. C'est-à-dire que Hoover va considérer que McCarthy, sa commission, comme d'autres commissions existantes à la même époque, notamment la fameuse commission des affaires anti-américaines à la Chambre, peut lui servir de porte-voix en quelque sorte, c'est-à-dire d'agir sur une question qui le préoccupe, qui est l'opinion publique et le fait d'alerter l'opinion publique à la menace communiste aux États-Unis.
Donc il provoque la demande sociale. Est-ce que son travail correspond à une demande sociale de l'époque ou est-ce qu'il provoque une demande sociale de cette lutte contre le communisme ou tous ceux qui étaient supposés être des agents de l'URSS?
Disons qu'il participe à la nourrir, mais tout ça, ça s'inscrit dans un contexte général qui est un contexte d'angoisse par le déclenchement de la guerre froide, sur un terreau d'anticommunisme qui s'est construit dans une bonne partie de l'opinion publique américaine depuis la révolution bolchevique en réalité et qui s'est réactivé dans les années 30. Donc il y a toute une partie des conservateurs américains qui sont en réalité tout à fait alignés sur une position très fortement anticommuniste dans ce contexte. C'est ce que les historiens américains vont appeler le consensus de guerre froide. Et dans le consensus de guerre froide, en fait, la très grande partie de la population, une bonne partie de la population américaine en tout cas, soutient tout à fait ces initiatives de lutte contre les ennemis intérieurs. Au moment du pic des auditions McCarthy, au moment où il dénonce à tout va, il y a Gallup fait un sondage et plus de la moitié des Américains soutiennent ses auditions. Seuls 29% s'y opposent. Le Chief Justice Warren va avoir une phrase assez célèbre, il va dire « Si aujourd'hui on soumettait le Bill of Rights, donc la déclaration des droits de la Constitution à un référendum, elle perdrait le référendum. Et donc le Bill of Rights s'est annulé par référendum. Donc il y a quand même une demande sociale. Ensuite, une demande sociale de protection, une angoisse vis-à-vis de ces menées communistes qui ne s'appuient pas sur rien. Et puisqu'il y a eu des affaires d'espionnage dès la fin des années 30, au cours des années 40, et puis, comme vous le savez, dans la deuxième partie des années 40. Donc il y a des éléments qui sont des signaux qu'évidemment ces agences peut-être surinterprètent un peu la menace, vont mettre en scène, utiliser, rendre public. Et c'est là que le rapport s'installe entre Hoover et McCarthy. Hoover fait fuiter des informations discrètement à direction de McCarthy pour que celui-ci les rende publiques lors de ses auditions, les utilise pour organiser des auditions, pour faire venir des individus, pour les impliquer. Et donc, en quelque sorte, peut rendre public des informations qui, par ailleurs, devraient rester confidentielles. Il s'agit aussi pour Hoover de contourner la règle, en fait, de confidentialité de ces informations et de confidentialité dans le cadre des procédures d'enquête devant ouvrir à des procédures judiciaires. Alors, l'un sert de porte-voix à l'autre.
John Edgar Hoover, je vous en prie, il mourra en 72 alors que le FBI est en pleine remise en cause, le programme Counterintelligence Program, donc c'est ce programme qui se charge de détecter les groupes et tous les individus dits subversifs qui est mis à jour, un programme de surveillance donc à grande échelle des citoyens américains. Comment le débat public et politique va-t-il s'emparer de cette affaire après la mort de Hoover? Est-ce qu'il y a une remise en cause du FBI ou de la figure de Hoover et du rôle qu'il a joué?
Alors, un tout un tout petit point pour vous dire que c'est encore plus grave d'une certaine manière le programme Cantel Pro, parce que le programme Cantel Pro, c'est pas seulement un programme d'identification et de surveillance passive, en quelque sorte, qui consisterait à établir des listes et à recueillir des renseignements. Il s'agit d'un programme qui est censé agir et qui est censé perturber l'activité de ces mouvances politiques. Un autre point peut-être qu'on oublie souvent, la gauche, l'extrême gauche, les mouvements des droits civiques ne seront pas les seules cibles du programme Cantel Pro. Dans les années 60, par exemple, à partir de 64, le FBI va employer les mêmes tactiques pour désorganiser le Ku Klux Klan et les promoteurs de la haine raciale dans le Sud. Donc, vous voyez, on vise toutes les mouvances politiques dont on pense qu'elles sont, elles peuvent déstabiliser, mais évidemment, dans les années 60, c'est d'abord des mouvances de gauche. Jusqu'aux années 60, il y a un soutien de l'opinion publique. Tout ça n'est pas totalement ignoré. Les gens savent, pas exactement, ils connaissent pas le fond du programme Cantel Pro, évidemment, mais les gens savent que le FBI enquête sur ces individus, que les gens sont surveillés, notamment avec l'expérience des années 50. À partir de la deuxième partie des années 60, il y a la rupture du consensus de guerre froide, autour de la guerre du Vietnam, autour des scandales dont vous avez parlé un peu plus tôt dans l'émission. Et à partir de là, l'opinion publique commence à changer. Et à la mort de Hoover, jusqu'à sa mort, il parvient à entretenir sa légende. À partir de la mort de Hoover, démarre un discours critique où il va finir par être dénoncé dans les années 80 comme le plus grand salaud de l'Amérique, c'est-à-dire non pas l'image du grand professionnel policier qui avait servi dignement la République, mais au contraire quelqu'un qui avait contrevenu à toutes les règles essentielles de la démocratie et de la Constitution, ce qui est sans doute exagéré dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a eu un effet de balancier où tout d'un coup on a surinterprété à la fois son poids, son influence. On entendait il y a quelques minutes la bande-annonce du film sur son biopic, le film de Clint Eastwood, l'homme le plus puissant d'Amérique, c'est sans doute exagéré. Il n'a jamais agi, par exemple, sans l'aval des présidents successifs.
Merci beaucoup.
Partir de mine. Voilà.
Oui, merci Alexandre Rios-Borde. Je vous remercie, maître de conférence à l'Université Paris-Cité, auteur des Savoirs de l'ombre, la surveillance militaire des populations aux États-Unis. C'est paru aux éditions de l'EHESS et je rappelle que vous êtes le coordinateur d'un programme de recherche qui s'appelle Ennemi, une socio-histoire du gouvernement de la menace. Peut-être une toute petite réaction à nos invités Damien Van Puvel et Gilles Dalle-Vauguer. Est-ce que quelque chose indique aujourd'hui, est-ce qu'on a des preuves de ce que le gouvernement américain de l'époque de ce Counter Intelligence Program du FBI avait approuvé ce programme. Qui veut répondre? Gilles Dalle-Vauguer.
Oui. Alors, écoutez, je crois que la démonstration a été faite. Ouais. Je reviens juste sur
oui, l'année. Non, pardon. Excusez-moi, on n'a plus vraiment de temps. C'était juste pour savoir si on avait des éléments. D'accord. Mais vous dites que non, a priori, que oui, qu'il y avait des liens forts.
De la part du politique vis-à-vis des agences de renseignement et du programme Cantel Pro.
Je réponds
par l'affirmative. Oui.
Merci d'avoir été avec nous, Gilles Dalle-Vauguer, professeur à l'Université Rennes 2. Vous avez écrit Le renseignement américain entre secret et transparence, paru aux presses universitaires de Rennes. Vous étiez en studio depuis France Bleu Armorique. Je remercie Mégane Bélanger en particulier de vous avoir reçu. Merci beaucoup Damien Van Puyveld, maître de conférence, directeur de recherche à l'Université de Leiden aux Pays-Bas. Vous avez écrit Cybersécurité, politique, gouvernance et conflit dans le cyberespace, paru aux éditions Politi en 2019. Merci d'avoir été avec nous. C'est l'heure de la revue de presse d'Héloïse Roger. À la une ce matin, Héloïse, vous évoquez l'aide à mourir en Allemagne.
Alors qu'en France, le projet de loi sur la fin de vie est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres, cette actualité résonne chez nos voisins allemands avec la condamnation récente de deux médecins outre-Rhin. On peut lire dans le Berliner Zeitung l'histoire de Christoph Turowski, un médecin de 74 ans condamné hier à 3 ans de prison pour avoir aidé une malade à mettre fin à ses jours. L'histoire remonte en juin 2021. Isabelle, une étudiante en vétérinaire de 37 ans, entre en contact avec Christoph Turowski. Elle le trouve sur Internet, lui est dans une association d'aide à mourir dans le pays. Ils font alors un premier entretien tous les deux, écoutez-le.
Und sie schilderte mir eben ihre innere Not, dass sie seit Anfang 21 in einer tiefen depressiven Krise.
Elle me décrit son état de détresse, qu'elle était en dépression depuis le début de l'année, une crise dépressive profonde, et les thérapies qu'elle a pu faire ne l'ont pas aidée. Et elle m'a dit aussi, il est possible que je sorte de cette phase, mais je sais que la maladie m'accompagnera toute ma vie, et les phase crises dépressives augmentent en intensité et sont de plus en plus longues. Les intervalles se raccourcissent. C'est mon pronostic et je ne veux pas le subir. Je veux mettre fin à ma vie. Elle a beaucoup insisté pour obtenir un rendez-vous avec moi dans les meilleurs délais. Deux semaines plus tard, le médecin a mis à sa disposition des comprimés qui doivent l'aider à mourir, mais Isabelle a survécu. Au procès, le juge reconnaît qu'Isabelle, malgré sa maladie, était encore capable d'évaluer de manière réaliste sa décision de mettre fin à ses jours cette fois-ci, mais pas pour la deuxième tentative. À la mi-juillet, Christophe Turowski l'aide de nouveau et la patiente décède. Selon le tribunal, à cette période, elle n'était plus en mesure de prendre une décision librement. Christophe Turowski s'est défendu à son procès. La patiente avait menacé de se suicider sans son aide. Plus tôt cette année, en février, un neurologue et psychiatre a lui aussi été condamné à 3 ans de prison. Dans le quotidien Die Tageszeitung, on peut y lire la conclusion du tribunal. La maladie psychique de son patient, en proie à de la schizophrénie paranoïde, aurait annulé son libre arbitre. Et cela alors même que le malade avait contacté le neurologue pour lui demander une aide médicale à mourir et qu'il avait déjà fait 3 tentatives de suicide sans aide d'une tierce personne. Ces deux cas montrent le flou juridique dans lequel opère l'aide médicale à mourir dans le pays, souligne le quotidien Die Zeit, qui explique qu'un médecin peut aider un patient à mourir que si ce dernier est conscient des possibilités qui s'offrent à lui, qu'il ne subit pas de pression et que son libre arbitre n'est pas affecté par un trouble psychique. De son côté, l'avocat de Christophe Turowski a demandé une clarification juridique. Il est important que les actions des personnes qui aident à l'euthanasie soient examinées au regard du droit pénal, a-t-il déclaré.
Autre sujet ce matin, aux États-Unis, Héloïse Roger, l'Arizona restreint très fortement l'avortement.
Avec un arrêt de la Cour suprême de cet État qui ouvre la voie à une interdiction quasi totale, le Washington Post explique que la loi de 1864 a été invoquée par la Cour suprême interdisant l'avortement sauf s'il y a un risque pour la femme enceinte. Actuellement, dans l'Arizona, il est possible de mettre fin à une grossesse avant 15 semaines. Cette décision pourrait obliger les cliniques d'avortement agréées de l'État à réduire considérablement leur activité ou à fermer leurs portes, indique le Washington Post. La décision n'est pas immédiate, précise le New York Times. Le tribunal a suspendu sa décision pendant 14 jours et a renvoyé l'affaire devant un autre tribunal. Il faudra probablement plusieurs semaines avant que la loi n'entre en vigueur. Les avortements sont encore maintenus jusqu'en mai. La procureure générale de l'Arizona a qualifié la décision d'inadmissible et d'affront à la liberté. Réaction aussi de la gouverneure de l'État, Kathy Hobbs.
It is a dark day in Arizona. Just now, the Arizona Supreme Court issued its opinion.
C'est un triste jour pour l'Arizona. La Cour suprême vient de confirmer l'une des interdictions d'avortement les plus extrêmes du pays. Et bien qu'elle soit actuellement suspendue, nous continuons à vivre sous un régime inacceptable d'interdiction de l'avortement. Une loi qui prive les femmes en Arizona de leur autonomie et ne prévoit aucune exception pour les femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles ou celles qui ont des complications pendant leur grossesse. Cette décision pourrait être importante pour les élections présidentielles à venir en novembre, explique le New York Times. En début de semaine, déjà, Donald Trump s'est exprimé à ce sujet, déclarant que le droit à l'avortement doit dépendre des États, en ajoutant qu'il était en faveur d'exceptions pour le viol, l'inceste et la vie de la mère.
Merci beaucoup, Héloïse Roger. Demain dans Culture Monde, ce sera le 4e et dernier épisode de notre série sur les maîtres du renseignement. On parlera d'Israël et la cyberdiplomatie, l'État et la tech main dans la main, avec nos invités, le chercheur Ilan Sialom et le journaliste Olivier Tesquet. Dans un instant, les midis de culture.